L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
Les empreintes ont réussi à reconnaître la personne, on dit au commissaire, qui regarde où elle habite. Voit que c'est l'adresse des Armands. D'Armand. Alors, elle dit au policier de prévenir la police, de prévenir la famille. Le policier va chez les Marcaches. Armand le reçoit dans son salon.
C'est pourquoi ?
Le policier lui dit, nous avons trouvé une dénommée Florence Marcache. Est-ce que cette personne habite chez vous ?
Oui, pourquoi ? Vous l'avez trouvée où ?
Dans la rue, à Paris. Elle était, comment dire, complètement perdue. Elle ne pouvait pas parler, frustrée. Alors, nous avons fait des recherches avec les empreintes. Armand est surpris, lui dit, je ne comprends pas. Elle était normalement à Deauville, chez ma mère. Le policier lui dit, il y a peut-être erreur, venez voir.
Bien, j'y vais.
Et il suit le commissaire. Il le mène au commissariat. Là, on le mène devant Florence, qui est dans le hall du commissaire. Elle le reconnaît et panique, Amandine. Armand se dit,
si je la reconnais pas, elle disparaîtra. Ta fortune sera bloquée. Puis à nous.
Mais non,
la police. À les empreintes.
Le commissaire demande, « Vous connaissez cette personne ?»
Il lui dit, « Oui, c'est ma belle-fille. »
« Et que faisait-elle la nuit ?»«
Elle est très dépressive. »«
C'est pour ça qu'elle ne peut parler ?»«
Oui. »«
Bien, vous la prenez ?»«
Oui. » »«
Alors signez les papiers et prenez-la. » Il signe les papiers et la prend. Florence se laisse guider. Une fois dehors, ils prennent un taxi. Une fois dans la maison, il la fait monter à sa chambre et coucher. Il dit au domestique
qu'elle ne sorte pas. C'est une fugueuse. Si elle s'en va, nous sommes responsables.
Puis il va dans son bureau pour téléphoner à sa mère.
Allô, j'aimerais parler à ma mère.
Merci.
C'est toi ?
Oui, que se passe-t-il ?
Il dit furieux. Comment ? Que se passe-t-il ? Florence avait disparu et tu ne savais même pas ?
Il dit surprise. Disparu ? Mais comment ?
Il lui dit. Mais elle n'est pas chez toi et tu ne sais même pas. Tu t'es trop occupé avec tes amours saphiques, avec Isabelle.
Elle lui dit. T'es complètement fou.
C'est moi qui suis fou ? Alors, où est Florence ?
Elle lui dit. Eh bien, elle est allée avec des amis faire une promenade.
Depuis quand ?
Hier matin.
Et tu ne t'es pas inquiété ?
Non, pourquoi ?
Elle m'a pas voulu me dire quand est-ce qu'elle revenait. Elle est revenue, mais à Paris, complètement hébétée. Et même dans la rue. Elle était trouvée par la police.
Elle lui dit, je suis confuse.
On ne peut absolument pas te faire confiance.
Où est-elle ?
Chez nous, au lit. Tu entres de suite avec ton Isabelle.
et vous allez vous occuper d'elle. Moi, je ne peux. Ton Isabelle va t'aider. Elle. Elle est payée pour s'occuper de Florence et non pour passer son temps avec toi. C'est faux. Bien. Tu cherches à la défendre. Mais je te préviens. C'est que j'en ai marre de savoir dans quelle dégradation tu es tombée, ma pauvre mère. Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien. Allez, entrez de suite toutes les deux. Et il raccroche. Il est furieux. Il se dit qu'il fait revenir à Paris sa mère et sa copine comme Rimbaud et Verlaine après un voyage dans la France profonde. C'est dégoûtant. Puis il prévient le docteur par téléphone et dit: elle a fugué et est revenue à Paris. Elle traînait dans les rues de Paris. Florence est au lit, effrayée de tout ce qui est arrivé. Tous ses ennuis, le chien, le train, la foule, le cadavre et tout. Elle a vécu un enfer et maintenant, elle est prisonnière de son beau-père. Elle a frappé à la porte.
Entrez.
Entre le bon docteur Morel.
Bonjour, ma petite chérie.
Elle ne répond pas. Il s'approche du lit et lui dit:
alors, vous n'avez pas été sage? On s'est enfui de chez sa bonne maman. Pourquoi?
Elle ne dit rien. Que dire? Elle ne sait pas. Enfin, elle s'est perdue, perdue comme une enfant, effarouchée, apeurée. Il dit:
c'est pas gentil, ça, d'être parti comme ça. Vous avez fait de la peine à bonne maman et à beau papa. Vous s'en fait beaucoup de soucis, tu sais. Tu veux rien me dire, ma chérie?
Elle ne dit rien. Elle a envie. C'est qu'on la laisse en paix. Le médecin se penche, lui prend le pouls, lui tapote la main, met la main sous sa chemise, trouve délicieux tout ça, et se dit que si elle pouvait être comme une légume, ce serait agréable de le sculpter à fond. Faut bien qu'il ait de petits plaisirs, le docteur. Il aime bien les ausculter, les prendre sur ses genoux, les petites filles. Les mères ne s'en rendent pas compte, se rendent compte de rien. Même lorsqu'il met la main sous la jupe, les mères surveillent leurs maris, les pères, parce que ce sont des hommes et c'est dangereux. Mais un docteur, un bon docteur, ce n'est pas la même chose. Le geste indécent et trouble
pour le mari deviennent des gestes paternels pour le bon docteur. Mais pour la jeune fille et la femme, c'est autre chose. Elles sont moins insouciantes. C'est pas facile de trouver une fille un peu, disons, légère ou qui se laisse faire facilement. C'est là, peut-être, dans quelque temps, elle sera mûre. Il lui dit, bon, je vais vous prescrire des médicaments pour vous détendre un peu. Oui, pour vous détendre un peu de médicaments, ça vous fera du bien. Elle se dit que c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Et il est parti. La vieille est revenue avec Isabelle dans la soirée. Ils ont retrouvé Armand au salon. Félicie est furieuse. À cause de Florence, son fils l'a traitée comme une moins que rien. Son fils l'embrasse.
T'as fait bon voyage,
il dit, furieuse. Tu parles en deuxième classe. Et où est la mijaurée?
Dans son lit.
Eh bien, qu'elle y reste? Isabelle dit, je vais aller la voir. Armand lui dit,
c'est ça, faites votre travail. Et il y a encore temps.
Isabelle tape à la porte de la chambre de Florence.
Entrez.
Elle entre.
Bonjour, ma fille.
Elle s'approche du lit et lui dit,
alors, on a fait des choses et nous a créé des ennuis. À cause de vous, je me suis fait disputer.
Florence lui dit, je suis navrée, mademoiselle.
Vous pouvez partir comme ça?
C'est pas normal, ça.
Florence lui dit, je sais pas ce qui m'est arrivé.
Vous perdez la raison.
Je sais pas. Je suis... Je sais pas. J'ai dû sûrement encore perdre la mémoire.
Eh bien, ne la perdez plus encore une fois. Elle ne dit rien. Et la vie continue. Elle est très surveillée. Elle reste dans sa chambre. On lui donne des médicaments. Reste couché toute la journée. Les jours passent. Les médicaments font effet. Elle essaie de se rappeler ce qui lui est arrivé, mais n'y arrive pas. Elle se souvient sûrement d'une grande panique. Une panique qui lui a prise. Armand retourne à ses occupations et va travailler chaque matin. Il revient le soir. Sa mère et Isabelle restent à la maison. De temps en temps, Isabelle va voir si elle est tranquille. Mais comme elle est tranquille, on la laisse en paix. Le docteur Morel va souvent la voir. Il ne peut s'empêcher de voir la petite chérie. Il est comme attiré comme un aimant. Il est tout exalté. Il n'ose pas la toucher comme il aimerait, mais sa douceur lui suffit pour le moment. Le temps passe. Un jour, elle se sent mieux. Un après-midi, elle peut marcher, sortir de sa chambre,
On lui permet de prendre ses repas dans la salle à manger, de rester au salon la journée et d'aller dans le jardin l'après-midi. Bien sûr, sous la surveillance d'Isabelle. Mais très vite, Isabelle s'ennuie de la surveiller. Florence va mieux. Elle est plus lucide. Et se promène dans la maison comme elle veut. L'après-midi, qu'elle s'ennuie, elle regarde dans ses affaires. Son armoire, son secrétaire, comme ça, pour voir ce qu'elle a. Dans son secrétaire, elle trouve des cartes de vœux. D'invitation. Rien de bien intéressant. Au milieu de tout ça, elle trouve un petit carnet. La couverture rouge, franche dorée. Et voit que c'est un vieux carnet d'adresse. Elle essaye de se souvenir de ce que cachent ces lieux. Elle n'arrive pas à savoir ce que c'est que ces lieux. Elle regarde les adresses d'avant son accident. Elle aimerait s'y aller dans ces lieux pour se renseigner, savoir si on la reconnaît, mais elle ne peut sortir. Elle garde sur elle le petit carnet bien précieux qui détient peut-être le mystère de qui elle est. Surtout, ne rien dire, le cacher. Elle se dit que peut-être dans une de ses promenades dans Paris, on ne sait jamais, et puis elle est peut-être déjà passée dans ces rues, elle ne se souvient plus combien de temps elle est restée dans la rue de Paris, dans les rues de Paris. Elle se demande pourquoi elle s'est trouvée dans le train. Des fois, elle pose des questions à la famille. Félicie lui dit : comment veux-tu que je le sache, ma pauvre fille ? T'es partie comme ça, sans rien dire, soi-disant pour faire une promenade. Mais je me suis tout retrouvé dans le train tout d'un coup. T'as dû perdre la mémoire. Comme ça, ça t'est déjà arrivé. Armand lui dit qu'il ne sait rien du tout, lui. Elle se dit que c'est terrible de perdre la mémoire comme ça, sans qu'on le sache. Les jours passent. Un après-midi, elle passe dans le couloir. Elle entend un bruit dans le salon et une conversation.
Elle est seule. Personne ne se fait du souci pour elle. S'il lui arrive quelque chose, mon fils est mort. Au bon moment, attends.
Elle est terrifiée.
entends une voix dire « Mais où est-il maintenant ?» Elle n'a pas entendu la réponse. Une porte s'est ouverte qui l'a fait sursauter. C'est un domestique qui passe dans le couloir devant elle. Elle se sauve dans sa chambre. À sa chambre. Elle est troublée, terrifiée. Elle se dit que c'est pas possible, que son mari n'est pas mort. Mais elle a du mal à entendre que c'est pas possible. Elle a assisté à son enterrement. Oui, à son enterrement. Elle ne sait plus. Elle n'en peut plus. Il faut qu'elle aille au cimetière. Oui, il faut qu'elle aille au cimetière. Et quitte la maison sans être vue. Et court au cimetière. Là, elle trouve la tombe et commence à voir que c'est bien lui. Et si pas lui, qui est-ce? Et ça retourne tremblante. Entre dans la maison, troublée. Elle se pose des questions, ne sait plus où elle en est. Elle décide de poser des questions aux domestiques, à la bonne. Elle lui demande « Comment était mon mari ?» Les derniers temps, il était très bien. Est-ce à dire ta maladie? Ben, sa maladie semblait aller mieux. Et sa maladie lui est venue quand? « Oh, madame ne va pas être contente, mais juste après la première visite de madame. On disait que vous aviez apporté le malheur, mais c'est faux, on le sait maintenant. » Laurence se demande, lui demande « Comment était-il avant de me connaître ?» Il menait une vie, disons, très dissolu, sortait beaucoup, s'amusait beaucoup, dépensait beaucoup, fête et tout, garde-robe importante, avait des filles. Monsieur, son père, se faisait beaucoup de soucis, mais heureusement que madame est très riche et est la fille de son père. Ça a arrangé. Monsieur et son fils aussi. Laurence se dit, ils m'ont pris pour prendre l'héritage de mon père. Elle n'en peut plus. Elle ne sait plus où elle en est. Perte de mémoire, tout ça, puis maintenant, son mari, qui n'est peut-être pas mort, la fortune de son père, et son père, est-ce vraiment son père, et elle, qui est-elle? Elle est toujours ce que les autres veulent qu'elle soit. Elle aimerait savoir qui était son mari, mais elle se rend compte qu'elle ne sait rien de lui. Tout est à eux. Elle se dit aussi qu'elle est étrangère chez les étrangers. Pourquoi ne vit-elle pas chez elle? Elle a un chez elle. Pourquoi est-elle chez eux? Qui l'en empêche de s'en aller
de vivre sa vie.
Pourquoi ?
Lui avoir confisqué son chéquier.
Elle se pose toutes ces questions malgré les médicaments, sa torpeur.
On la trouve songeuse
et lui demande ce qu'elle a.
Elle dit qu'elle aimerait,
c'est avoir un chez-soi.
On lui dit qu'elle est chez elle.
Et puis, que ferait-elle toute seule, malade ?
Elle a tout ce qu'elle veut.
Elle dit justement, j'aimerais avoir un chéquier.
On lui dit, mais pourquoi faire ?
Elle dit, mon mari est mort.
On lui dit, vous êtes seule au monde ?
Sans mari, nous sommes votre seul soutien.
On lui augmente ses médicaments.
Elle fait des rêves étranges.
Ou elle est dans une autre vie.
On la fait dormir pour l'abrutir.
Mais les rêves lui font poser des questions.
Elle se dit, pourquoi ne suis-je pas moi ?
Pour la distraire, on l'amène dans les magasins, les bijoutiers, Rue de la Paix, Place Vendôme, les couturiers, etc., etc. Et on organise des soirées, toujours des soirées.
Les jours passent.
Tu connais du monde ici ?
À une soirée que son beau-père organise, est obligée d'y assister parce qu'elle fait partie de sa famille. Elle n'aime pas ça.
Pour quelle raison Ziegler nous a
parce qu'elle a d'autres idées en tête.
Ah, quand un médecin soigne à domicile, on le soigne.
Et puis, il n'y a que des gens inintéressants. À chaque fois qu'il y a une soirée, on lui paye
du
robe. Un
type qui joue du piano.
Pour montrer aux invités.
On a fait nos études de médecine ensemble.
Oui. Qu'elle a ce qu'il faut. On
je
la traite toujours.
Un confrère.
Que ce n'est pas un confrère.
Vrai.
Il est au plaquet.
Inconsolable. Une veuve inconsolable.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.